Le journal Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'exécutif prépare en France les esprits à une accélération de l'épidémie du nouveau coronavirus. Pas question pour l'instant de prendre des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie. Mais si demain ou après-demain il y avait lieu de le faire, nous l'expliquerions, a déclaré Emmanuel Macron hier.
Et de l'Italie à la France, l'inquiétude monte sur la capacité à répondre à l'épidémie dans les hôpitaux. Quand la priorité à donner aux patients relève de choix cornéliens, nous serons à Rome et à Paris dans un instant.
L'occasion de comprendre pourquoi le Covid-19 inquiète davantage que la grippe. Le coronavirus qui parasite encore le premier budget post-Brexit, vous l'entendrez. Et puis à Paris, de la prison ferme requise hier pour l'ex-premier ministre François Fillon. Parole à la Défense aujourd'hui.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour, peut-on parler d'une hausse de cas d'autisme en France? On posera la question à une psychiatre, Marion Leboyer.
L'Italie de plus en plus coupée du reste du monde ce matin. Les liaisons aériennes ont été interrompues par Air France, British Airways, Ryanair. La Slovénie ferme sa frontière. L'Autriche ne laisse passer les voyageurs en provenance d'Italie que sur présentation d'un certificat médical. Alors que l'épidémie de Covid-19 a déjà tué plus de 600 personnes dans la péninsule, plus de 10 000 cas détectés à ce jour. Et deuxième jour à Casa pour les Italiens, 60 millions d'habitants qui sont appelés à rester chez eux pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. Virus et ces restrictions de liberté jamais vues à l'échelle d'un pays pourraient aller encore plus loin, Bruce de Galzin.
La région la plus touchée réclame plus de sévérité. Le président de la Lombardie s'exprime au nom de tous les maires de la région, dit-il, et demande au gouvernement les mesures les plus dures pendant une période limitée. 15 jours sans aucune activité. Fermer tous les commerces, excepté ceux de première nécessité. Toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles. Suspendre tous les moyens de transport en commun et que chacun reste chez soi. Ce qui motive la Lombardie, c'est le résultat obtenu dans le sud de Milan, la première zone rouge à Codogno, qui était totalement isolée et qui aujourd'hui voit le nombre de cas positifs au coronavirus baisser, alors que dans le reste de la région, plus de 1000 cas sont recensés aujourd'hui. Dans le nord toujours, dans le Piémont, ce sont les contrôles qui sont pris très au sérieux par les forces de l'ordre, dans les rues, dans les gares, et dans les aéroports.
Tout pour limiter la propagation du nouveau coronavirus en Italie, tout pour protéger également un système de santé déjà saturé, choix cornélien auquel Luigi Riccioni, médecin, doit faire face. Ce membre de la Société italienne d'anesthésie, d'analgésie, de réanimation et de thérapie intensive était l'invité hier du plateau Di Martedì sur la 7 à la télévision italienne.
Nous ne voulons pas choisir qui doit vivre ou qui doit mourir. Mais si l'on est confronté à ce choix, nous suivons le protocole de la médecine pour les catastrophes. Priorité donnée à celui qui a la plus grande espérance de vie.
Difficile à imaginer dans la 8e puissance économique mondiale, mais logique à force de coupes budgétaires, si l'on en croit Pietro Senaldi, journaliste à Milan pour Il Libero.
Je ne suis pas médecin, mais j'ai parlé récemment avec le professeur Sirchia, ancien ministre de la Santé, et il m'a expliqué 2-3 choses. Le coronavirus a mis 2 mois environ à arriver en Italie, et pendant ce temps, le gouvernement ne s'est pas préparé à l'épidémie. Et ce coronavirus frappe l'Italie car notre système sanitaire est malade. On a taillé dans les budgets jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lits ni de masques. Et c'est à l'Europe que l'on doit d'être malade économiquement.
Pietro Senaldi, journaliste à Milan pour Il Libero, invité hier à la télévision italienne sur la chaîne La 7. Et le débat rebondit en France où le personnel hospitalier alerte depuis des années sur le manque de moyens, car si même 98% des patients atteints par le coronavirus en guérissent, le Covid-19 inquiète davantage que la grippe par la gravité de certaines évolutions cliniques et par le nombre de malades qu'il va falloir encore prendre en charge, Véronique Julien.
Près de 1800 cas positifs, 33 morts et 86 patients dans un état grave. Le pointage fait par la Direction générale de la Santé hier soir correspond aux statistiques connues sur le virus. Un taux de mortalité inférieur à 2% et un taux de cas sévères admis en réanimation qui tourne autour de 5%. Mais pour le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, il faut rester attentif. Ce Covid-19 n'est pas comparable à la grippe. Il peut surprendre.
Les personnes atteintes ne sont pas les personnes atteintes classiquement par la grippe. Il peut donner des formes graves chez des personnes pas si âgé que ça et chez des personnes qui n'ont pas de pathologie chronique.
Alexandre Bleibtreu est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il confirme que le virus touche essentiellement les plus âgés et fragiles, mais pas seulement.
On a des patients qui étaient stables et qui se transforment en tableau respiratoire gravissime, des patients sans antécédents, sans comorbidité.
Et ce que redoute l'infectiologue, c'est l'effet de masse, cette vague qui va s'abattre sur les hôpitaux dans les semaines à venir. Aura-t-on assez de lits en réanimation ?
On peut les ouvrir, mais après il faut qu'il y ait des infirmières qui sachent manipuler des respirateurs, il faut qu'il y ait des docteurs qui sachent intuber, ventiler. Notre système de santé n'est pas dimensionné pour absorber une épidémie de cette ampleur.
À la Pitié, ajoute l'infectiologue, la question se pose déjà quotidiennement de réanimer ou pas certains patients très âgés qui souffrent de multiples pathologies. Elle se posera d'autant plus, dit-il, quand l'épidémie se rapprochera de son pic et que la place en réa viendra sérieusement à manquer.
Et nous ne sommes qu'au tout début de cette épidémie, a prévenu hier Emmanuel Macron, alors que la plus forte augmentation des cas a été rapportée hier soir, 372 de plus en France en 24 heures. Pas question pour l'instant de prendre des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie, mais si demain ou après-demain il y avait lieu de le faire, nous l'expliquerions, a déclaré le chef de l'État à l'issue d'un sommet européen d'urgence organisé par visioconférence. Un sommet sous une forme inédite, donc pour les 27 qui ont discuté des réponses sanitaires et économiques à apporter à la crise, la correspondance à Bruxelles d'Angélique Bouin.
Pour mieux se coordonner, les ministres de la Santé et de l'Intérieur des 27 États membres devront se parler tous les jours. Il faut aussi agir sans tarder pour soutenir les secteurs impactés par la crise, a expliqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Nous allons utiliser tous les instruments à notre disposition pour que notre économie résiste à cette tempête.
25 milliards d'euros seront débloqués, dont 7,5 immédiatement, pour soutenir notamment les PME ou le marché de l'emploi. Et la Commission sera souple en matière d'aide publique et de respect des règles de déficit, a-t-elle promis. Il a aussi été décidé de réunir des virologues de tous les pays à Bruxelles pour échanger sur l'état de la recherche. 140 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour soutenir 17 projets. Enfin, les 27 vont s'accorder pour éviter toute pénurie de matériel médical. La France et l'Allemagne avaient été critiquées pour avoir restreint leurs exportations. Il y a un accord entre nous pour s'assurer du bon fonctionnement du marché intérieur, a expliqué Charles Michel, le président du Conseil.
Ça vise les masques, le matériel nécessaire sur le plan respiratoire. Ça vise aussi les produits qui sont nécessaires pour réaliser les tests. Ça vise l'ensemble des fournitures dont on va avoir de plus en plus besoin dans les semaines qui viennent.
La Commission a aussi annoncé hier une aide au secteur aérien afin d'empêcher les vols à vide. Les règles sur les créneaux aéroportuaires seront temporairement assouplies.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le coronavirus perturbe également le premier budget post-Brexit.
Présenté à Londres cet après-midi, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait promis de nombreux investissements dans les infrastructures, les services publics et la transition climatique, mais certains de ces projets pourraient être différés au-dessous.
Investir, c'est le mot-clé pour le gouvernement de Boris Johnson. Après 10 ans d'austérité, 3 ans et demi d'impasse liée au Brexit, le Royaume-Uni veut desserrer les cordons de la bourse. 5 milliards de livres pour l'Internet à haut débit nouvelle génération, dans les régions du pays les moins bien couvertes, 5,2 milliards pour lutter contre les inondations. Pendant la campagne électorale en décembre, les conservateurs ont promis une révolution des infrastructures et le nouveau ministre des Finances compte bien tenir sa parole. Rishi Sunak.
Nous voulons niveler le pays vers le haut, investir dans les services publics, développer le potentiel de nos entreprises. Nous avons un ordre du jour enthousiasmant et nous le respecterons.
Mais le budget annoncé aujourd'hui devra prendre en compte un nouvel élément, le coronavirus. Des fonds ont déjà été débloqués pour permettre aux hôpitaux de s'équiper et de faire face. Le gouvernement a aussi annoncé des dispositions pour soutenir les entreprises et aider les travailleurs indépendants à traverser cette crise. Mais il va falloir financer ces mesures. Carl Emerson, directeur adjoint de l'Institut d'études fiscales.
Le ministre des Finances, même sans la question du coronavirus, a une tâche difficile pour le budget. Il y a beaucoup de promesses de dépenses dans le service de santé, les écoles, la protection sociale, la police. Mais ce n'est pas clair si le gouvernement veut augmenter les impôts. Et il y a l'impératif de conserver le déficit budgétaire à son niveau actuel. Comment combiner les deux reste une inconnue.
Certaines réformes pourraient donc être repoussées à l'automne, comme par exemple les incitations à acheter des voitures électriques électriques ou d'autres mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique.
Aude Soufi à Londres pour France Culture. Sera-t-il président à vie? Le président russe Vladimir Poutine a ouvert la voie hier à son maintien au pouvoir après la fin de son mandat actuel dans le cadre d'une vaste révision constitutionnelle adoptée par les députés. On y revient dans la revue de presse internationale avec Marie-Pierre Véraud juste après le journal de 7h30. Ce mercredi, dernier jour du procès de François Fillon, de son épouse Pénélope et de son ancien suppléant Marc Joulot. Hier, les deux procureurs du parquet national financier ont livré des réquisitions sévères demandant 5 ans de prison, dont 3 avec sursis à l'encontre de l'ancien Premier ministre, 3 ans avec sursis également pour son épouse et 375 000 euros d'amende chacun. Féroce réquisitoire suivi par Antoine Marette.
Aurélien Letocard appelle le tribunal correctionnel à rendre une décision à la hauteur de la légitime exemplarité attendue d'un prétendant à la magistrature suprême. Le procureur financier dénonce le profond sentiment d'impunité de François Fillon, lui qui avait fait de la probité une marque de fabrique lors de sa campagne pour la présidentielle. Il réclame 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité. Son avocat conteste le caractère fictif de l'emploi de Pénélope Fillon. Maître Antonin Lévy dénonce un réquisitoire politique et médiatique.
Je pense qu'il y a un certain manque de respect de la part du procureur de la République financier pour un homme qui a servi la France pendant 40 ans et que l'ironie qui était pour moi plus des phrases qui visaient à être reprises dans les tweets ne fait pas ce que doit être l'essence d'un réquisitoire. Un réquisitoire, c'est un dossier, on confronte les faits avec le droit, on en tire une peine. Là, on a beaucoup de punchlines, beaucoup d'éléments qui sont là pour être repris, pour bien fonctionner dans les médias, mais qui très concrètement, quand on regarde le dossier et qu'on est un tout petit peu rigoureux en droit, ne vont pas tenir très longtemps. C'est pas du droit, c'est de la politique qu'a fait le parquet national financier. De la pure politique pénale, normalement c'est le rôle du garde des Sceaux, là en l'occurrence c'est le parquet national financier qui s'en est occupé, de la politique pénale en disant dans ces dossiers-là il faut de la prison ferme, le droit nécessite de le justifier, ils ne l'ont pas fait.
Pénélope Fillon bénéficie d'une relative clémence de la part des procureurs, perçue comme la victime consentante des agissements de son mari. 3 ans avec sursis sont requis et également 375 000 euros d'amende. Enfin, contre le suppléant Marc Joulot, il réclame 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende.
À suivre dans le journal de 7h30, Joe Biden qui a pris un avantage déterminant dans les primaires démocrates aux États-Unis. Le temps de ce mercredi 11 mars, marqué par une vigilance jaune pour crue dans le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 13 et 15 degrés dans la moitié nord du pays, 16 à 23 au sud. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.